Voyage Cast 71, et si on s'expatrie en Irlande, avec Julie, David et Nico. Bonjour et bienvenue sur Voyage Cast, votre podcast sur le voyage. Ici Jonathan, et avant de vous lancer ce podcast qui parle de l'expatriation en Irlande, où j'ai eu le plaisir de recevoir David, que vous avez déjà entendu sur des épisodes sur la Thaïlande, de recevoir Julie, que vous n'avez jamais entendu sur Voyage Cast, mais souvent sur Podcast Science, et Nicolas. Pour le coup, je crois, c'était sa première participation à un podcast. On a parlé de l'expatriation en Irlande, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre, comment sont les gens, comment ils travaillent, quel est le prix de la vie, qu'est-ce qu'on y mange. Vous verrez, c'est assez marrant parce que David, il aime moyennement son séjour à Limerick, on va dire. Vous le comprendrez durant le podcast. Nicolas, quant à lui, a vraiment beaucoup, beaucoup aimé Irlande. Et c'est donc très intéressant d'avoir ces deux avis qui se rejoignent parfois et s'éloignent parfois. Bref, un bon podcast pour ceux qui songent ou pas à aller en Irlande pour l'expatriation. Donc, je vous disais, avant de lancer le podcast, j'aimerais vous dire que le 15, c'est-à-dire ce dimanche, ça serait pas mal si vous allez sur anthropodcast.fr puisque nous lançons une nouvelle petite idée avec Anne-Laure, l'anthropo-quiz. En effet, on a décidé de faire participer les auditeurs un petit peu au podcast. Vous aurez l'occasion de répondre à une question sur l'anthropologie. Ce sera un son ce coup-ci et ça risque d'être vraiment très intéressant. Donc si vous aimez l'anthropologie, si vous aimez les quiz, AnthropoQuiz est fait pour vous, ça sortira ce dimanche. Les Patriotes, c'est-à-dire ceux qui donnent un tout petit peu d'argent pour aider AnthroPodcast et VoyageCast, ont eu d'autres nouvelles, c'est parti ce samedi, je sais pas. Si vous n'avez pas reçu ces nouvelles, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans votre dossier spam, on sait jamais ce qui se passe avec les mails. Mais à part AnthropoQuiz, il y a eu quelques nouvelles qui ont été données pour le futur de VoyageCast et d'AnthropoPodcast, vous inquiétez pas, vous le saurez bien assez tôt une fois que tout sera organisé. Sinon, pour tous ceux qui se demandent, oui, je suis revenu en Suisse, j'ai recommencé à travailler directement la semaine passée, et ça se passe très bien. Vous savez pourquoi? Ben parce que c'est un petit peu le rêve, la Suisse. C'est là où je recommence à enregistrer des podcasts, et j'adore enregistrer des podcasts. Et puis quand je suis en Suisse, vous savez quoi? Ben, je prépare mon prochain voyage. Donc, la réponse à « Est-ce que t'es triste de revenir en Suisse ?» Un petit peu parce que j'ai quitté le Canada, j'ai quitté les amis qui sont là-bas, mais hey, j'aime bien mon pays, j'aime bien mon job, j'aime bien préparer des vacances, j'aime bien faire des podcasts. C'est pas mal, je suis pas mécontent d'être ici. Et en plus de ça, on a eu de la jolie neige quand j'arrivais, c'était absolument parfait pour revenir en avion. Bref, je vous laisse avec ce podcast sur l'Irlande. Bonne interview. There has been an awakening. Have you felt it? Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, ici Jonathan, et aujourd'hui, dimanche matin, j'ai la chance d'être accompagné de trois amis pour parler de l'expatriation en Irlande. Bonjour à tous.
Bonjour.
Salut.
Alors vous avez écouté une petite voix féminine et deux voix bien masculines. On va présenter la première, Julie. Salut Julie.
Salut Jonathan.
Alors on t'a déjà connu, t'es une célèbre podcasteuse, podcastrice, je sais pas, sur Podcast Science.
Exactement, ouais.
Alors, il y a déjà David qui était passé pour... on avait parlé un petit peu de Podcast Science, mais rappelle-nous juste que c'est pour les rares auditeurs de Voyage Cast qui n'écoutent pas.
Bah, c'est le balado qui fait aimer la science. Donc, c'est une émission hebdomadaire dans laquelle on peut aborder tout type de sujets scientifiques dans la joie et en servant la science.
Et c'est votre joie, comme dirait Alan.
Exactement.
Podcast qu'on aime beaucoup. Alors, comme ce podcast-là est enregistré en novembre et qui sort, je crois, en fin janvier, voire début février, je sais pas quels seront les derniers épisodes, mais en date de novembre, les derniers épisodes, on avait parlé de Voyager, par exemple. Vous avez
Ouais.
parlé de Voyager, vous avez parlé de la météo, vous avez fait un freestyle aussi très intéressant, vous êtes revenu sur le sur le prix Nobel de physique, si je me rappelle bien.
Ouais, sur les LED.
Exactement. Tu peux nous teaser un peu ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année?
Alors, jusqu'à la fin de l'année, on va recevoir Billy de Science à Billy la semaine prochaine, qui va nous parler du vieillissement et de la mort. On devrait recevoir Étienne Klein, voilà, pour une interview, donc on en est quand même assez content. On a reçu, l'épisode n'est pas encore diffusé, mais on a reçu le professeur Marc-André Sellos sur les transferts horizontaux en génétique. Interview passionnante qui va être diffusée mardi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai en tête pour le moment.
Eh ben c'est déjà bien sympa. De toute façon, vous avez quoi? Plus de 200 épisodes, je crois.
On va arriver à la 200e, ouais, fin décembre.
Ouais, donc si vous n'avez jamais écouté Podcast Science, vous pouvez passer à peu près 2 ans à les écouter, même s'il n'y avait pas de nouveaux épisodes qui sortiraient. C'est très bien. On a aussi Nicolas. Salut Nicolas.
Salut Jonathan.
Alors toi, dis-moi, tu fais un podcast aussi?
Non, pas du tout, non.
Oh, mais c'est scandaleux ça. Qu'est-ce que tu fais sur Voyagecast?
Quelle idée étrange.
Quelle idée étrange,
Oui,
exactement,
mais
de pas faire
David
de
en fait plein pour
podcast.
moi, donc.
Et c'est vrai que notre autre invité, David, salut David, nous en fait plein aussi des podcasts.
Oui, hello, quelques-uns en effet. Je suis donc un ex de Podcast Science, mais je viens surtout de me lancer dans la vidéo.
Ouais, très très bonne vidéo. Tu peux nous en dire un peu plus parce que, alors, j'ai pas regardé ta dernière sur les religions bizarres, je crois, mais
Elle est excellente.
D'accord. Alors, tu peux nous
Merci.
dire un petit peu plus là-dessus parce que tes vidéos sont vraiment vraiment excellentes, hein. Elles
Bah,
font beaucoup rire en plus.
c'est très gentil. Je viens de passer il y a quelques mois donc des podcasts audio vers les vidéos sur Internet. Et ce que je fais, disons, c'est un mélange de biographies de scientifiques un peu chelous, un peu hippies ou originaux à la vie originale, généralement plutôt des années 50, 70, avec un petit peu mélangé avec un petit peu de vulgarisation scientifique, un petit peu d'humour et des déguisements rigolos. Ça résume à peu près. Voilà. Et puis bon, il y a d'autres sujets aussi qui sont abordés. Je devrais parler tôt ou tard de sciences, de post-humanisme, transhumanisme, peut-être d'intelligence artificielle, ce genre de choses aussi. Le tout dans des tons plutôt humoristiques, donc, et en vidéo. Et ça s'appelle Xilcast.
Xilcast, exactement. Puis en plus de ça dure pas longtemps, hein. Une dizaine, quinzaine de minutes maximum, il me semble.
Ouais, la plus longue doit faire 17 minutes, je crois. Mais dans l'idée, oui, faudrait que j'arrive aux alentours de 10 minutes. La dernière fait une seconde de moins que 10 minutes. Donc je suis très fier d'être enfin rentré dans un format court.
Ouais, bah en tout cas, c'est excellent. Ce sera de toute façon au lien sur Voyagecast, mais c'est que Xilcast sur YouTube, on peut le retrouver très très facilement. C'est vraiment génial pour se cultiver en se marrant parce que certains de tes costumes sont vraiment sympas. Je me demande toujours où tu les retrouves, mais c'est vraiment cool.
C'est très gentil. Oui, non, sinon pour les costumes, j'aime bien acheter des trucs bizarres. Donc de temps en temps, c'est presque la manière dont je m'habille dans la rue. Non, quand même pas.
Certains podcasts. On discutera de l'Irlande. Je sais pas si c'est socialement accepté tous les costumes que tu prends. Hein. Ça peut être assez marrant. Alors justement, on va parler de l'Irlande. Alors en premier, quel est votre rapport avec l'Irlande? Comment est-ce que vous êtes arrivé en Irlande? Pourquoi vous y avez été? On va peut-être commencer par Julie encore une fois. Hein. Allons-y.
Alors en fait, moi j'y suis allée que ponctuellement, puisque en fait j'allais voir Nicolas qui habitait là-bas. Donc moi j'ai vraiment l'expérience de aller 10 jours de vacances et 3 week-ends là-bas. Donc clairement j'ai pas l'expatriation en Irlande, c'est pas forcément mon truc. J'accompagnais Nicolas quoi.
D'accord. Donc toi, Nicolas, on en déduit que tu y es resté un moment quand même pour y travailler, par contre.
Exact, exact. En fait, moi, j'étais après mon diplôme, je suis allé dans un programme d'analyste financier qui te faisait tourner un petit peu partout en Europe. Donc, je suis allé bah, 6 mois à Paris, 6 mois à Londres et 6 mois en Irlande. Et donc, j'ai passé 6 mois dans l'ouest de l'Irlande, à Limerick, où je travaillais.
Donc, t'as fait ça et t'as fait analyste financier et t'es même pas allé en Suisse? C'est quoi? T'as fait une école bizarre, là, c'est quoi?
Non, mais c'était. Ils n'avaient pas d'activité en Suisse. Donc, mais bon, ils m'ont envoyé en Irlande, ce qui est pas mal aussi.
Oui, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'il doit y avoir pas mal d'analystes financiers. On sait que les gros de l'high-tech, notamment, sont tous en Irlande. Hein. Je sais pas si tu as travaillé pour eux. T'as peut-être même pas le droit de le dire. Mais j'ai un ami qui est aussi analyste financier qui bosse là-bas, justement. C'est des bons pourvoyeurs d'emploi, on va dire.
Oui, non, mais c'est à Dublin, il y a tous les Facebook, les Apple, et tout ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens là-bas grâce à leur taux de taxe assez bas. Mais moi, j'étais pour une société que pas grand monde connaît, mais qui, en fait, c'est une société de location d'avions qui possède 10% de la flotte mondiale. Donc, un avion sur 10 leur appartient. Et ils sont basés à Limerick, dans l'ouest de l'Irlande.
Ça tombe bien, j'avais justement besoin d'un avion pour Washington il y a 2 semaines. On peut peut-être s'arranger après le podcast. Et toi, David, alors, qu'est-ce que tu as été faire en Irlande?
Qu'est-ce que je fais toujours? Ben, je me suis expatrié à Limerick aussi, comme quoi c'est the place to be, pour faire une thèse sur, en très très gros, disons, de l'intelligence artificielle.
D'accord. C'était pas toi qui étudiais les mouches?
Non, 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 ça c'est quelqu'un. Je vois deux autres personnes potentiellement, mais je fais ça en relation. Enfin, c'est un genre particulier d'intelligence artificielle, disons de la vie artificielle, et c'est lié à de la sélection naturelle. Donc c'est un peu entre la bio et l'informatique. Mais il n'y a pas de mouche.
Il n'y a pas de mouche, c'est triste. Non, mais il me semble que c'était quelqu'un qui était, alors peut-être quelqu'un qui était passé.
C'est peut-être Pierre Kerner, hein, aussi. Je connais deux podcasteurs qui étudient les mouches, qui étudient des mouches, je suis sûr, pour, merde, un des polygeeks, Antoine Broche.
Oui, c'est un des, voilà, exactement.
Et je me demande si Pierre Kerner étudie pas aussi les mouches, mais je suis pas sûr pour Pierre Kerner.
Bon, bah en tout cas, voilà, ben t'y es encore, hein. T'y es depuis combien de temps, David?
Quasiment 2 ans, depuis janvier 2013.
Ok, ouais, donc t'as quand même une bonne idée de l'endroit. Comme vous êtes au même endroit, justement, c'est intéressant à parler un petit peu d'expatriation, mais plutôt de vos expériences, un petit peu comment ça se passe, comment vous le vivez, parce que c'est toujours un... On avait déjà parlé de l'expatriation plusieurs fois sur VoyageCast, mais c'est toujours un petit peu... Il me semble que c'est le next step après le voyage, tu vois, c'est vraiment rentrer en plein dans une population, dans un endroit, dans un rythme de travail qui est différent. Alors, du coup, c'est plutôt Nicolas et David qui vont parler, mais Julie, t'as quand même le droit d'intervenir quand tu veux, bien sûr.
Pas de souci.
Alors, Nicolas, d'abord, toi, tu es arrivé à Limerick. T'avais déjà prévu d'y passer un temps définitif ou, ben oui, là, on pense, t'avais 6 mois à peu près.
6 mois pile.
Je suppose que tout ce qui était location d'appartement et tout ça, dans ce cas-là, c'était pas vraiment toi qui t'en occupais.
Ah non, moi, je suis arrivé. Il y avait l'appartement qui était prêt, la voiture qui était prête. Donc, non, sur ce coup-là, je m'en suis pas occupé de rien.
D'accord. Toi, David, je suppose aussi que c'est un peu la même chose ou bien c'était plus compliqué?
Ah non, moi, c'était... Je suis arrivé à Limerick avec mes deux grosses valises. Je n'avais aucune idée d'où j'allais dormir. Je ne connaissais pas la ville. Je n'avais rien regardé. Je suis arrivé par le bus qui s'arrêtait juste à côté de la gare de train. Et là, je vois un hôtel qui s'appelle le Railway Hotel. Je me dis, bon, bah, je vais rester là pour la première nuit et j'entreprends de trouver un appart. Et j'ai mis 4 jours à trouver un appart. Au bout des 4 jours, je commençais à flipper parce que je commençais à payer cher en hôtel et j'avais toujours rien trouvé. Puis finalement, j'ai passé mes 6 premiers mois dans un village étudiant. Et puis après, j'ai déménagé vers des apparts un peu moins chers. Parce que les villages étudiants sont très chers à Limerick. Les universités sont pas, c'est pas comme en France. Un campus universitaire, quelque chose où les choses sont moins chères. C'est un endroit où il y a des Starbucks et c'est très commercial et où généralement les magasins qui sont sur le campus sont plus chers que les magasins qui sont en dehors du campus. Et pareil, le logement pour étudiants sont plus chers que les logements pour non-étudiants. Complètement pas instinctif pour un francophone.
Ouais, enfin, ça
pour
fait...
un français en tout cas.
Je suppose que ça fait un peu business parce que du coup c'est parce que ces apparts sont plus proches des écoles, donc fatalement
ouais, mais
ils sont
enfin,
loués, quoi.
Oui, mais non. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des ce qu'ils appellent des villages étudiants. Alors, il y a les villages étudiants sur le campus. C'est vraiment je pense, appartements qui sont propriétés de l'université où tu payes genre 700 quasiment euros par mois. T'as pour une colocation, en gros, t'as des campus qui sont des campus, des villages pour étudiants qui sont en dehors du campus. Je sais pas exactement par quoi c'est géré, mais par sûrement des entreprises privées qui gèrent ça, ou là qui sont un petit peu moins chers, qui sont aux alentours de 350 € par mois, sans inclure tout, et en plus tu récupères pas tes cautions, donc ça fait un peu plus. Et en fait, au final, il y a le louer directement dans des maisons qui sont dans le coin, qui peuvent être beaucoup plus proches que les villages étudiants en dehors du campus, où là, tu vas payer, si tu te débrouilles bien, tu peux payer 150 € par mois ou 200 € par mois. Donc, par rapport à 600, 700, ça fait quand même beaucoup, beaucoup moins.
Ouais, la différence est violente quand même, ouais.
Ouais. Alors, j'ai jamais été sur le campus. J'étais sur un village étudiant en dehors du campus. Donc, en gros, je suis passé de disons, 400 à 200. Mais ça divise quand même le prix par deux.
Ah ouais, quand même, au budget final de l'année, ça se sent quand même, hein. J'ai un ami qui a été en Irlande et il disait que c'était relativement simple de trouver des maisons. Alors lui, il avait une famille. Il disait que c'était très simple de trouver des maisons et que c'était beaucoup plus simple aussi de les louer. Qu'en Suisse, par exemple, où finalement il suffisait de payer le premier mois ou les 2 premiers mois et puis les gens te laissaient rentrer direct. C'était un processus très rapide, contrairement, je sais pas si t'as eu le même feeling.
Oui, bah, à Limerick, il y a quasiment que des maisons individuelles, même les villages étudiants, c'est, ben, sauf ceux qui sont sur le campus, c'est généralement aussi, ouais, non, pas tout le temps. Enfin, à part les villages étudiants qui sont de temps en temps des appartements, la plupart du temps, c'est des maisons. Là, je suis dans une maison. Avant, j'étais dans une maison. Et en effet, niveau contrat, c'est très étrange. J'ai loué, enfin, une chambre, bah, un an dans une précédente maison. J'ai jamais vu la propriétaire signer de contrat, ni quoi que ce soit. Je faisais des transferts vers un compte bancaire. Sans vraiment savoir ce qui se passait. A priori, ça avait l'air de pas être une location au black, pourtant. Enfin, y avait une caution, mais j'ai jamais signé quoi que ce soit. Enfin, peut-être qu'au final c'était au black, je ne sais pas trop. Mais
On n'ira pas plus loin sur Voyagecast, histoire qu'il ne fasse pas
voilà.
arrêter par la police irlandaise.
C'était pas ma volonté, en tout cas.
Ok, mais ouais, c'est vrai que c'est marrant, mais c'est bon à savoir que c'est possible de faire ça. D'ailleurs, eux, ils disaient que c'était beaucoup plus simple d'aller là-bas, d'aller visiter des maisons et de commencer tout de suite à louer, plutôt que de s'arranger depuis la Suisse, par exemple, sur Internet, à essayer d'avoir une agence ou n'importe quoi, où finalement tu perds beaucoup d'argent.
Ouais,
Donc
non,
ouais.
c'est assez simple, ça se fait assez vite. C'est pareil, la dernière maison qu'on a louée, pour le coup, enfin, j'ai signé quelque chose, les autres non. C'était en mode, on a visité la maison, on a fait, ok, bon, on peut venir s'installer après-demain. Oui, pas de souci, hop, on est venu s'installer après-demain. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide et aussi informel dans la mise en place.
Bon, bah un point positif alors, c'est très très bien. Nicolas, alors on va peut-être continuer à parler avec toi. Au niveau de la vie sur place, avant peut-être de parler du travail. Alors tu es français, hein. Est-ce que tu es de Cannes?
Non, 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 je suis de hier. Donc, juste à côté.
Juste à côté. Bon, on va dire que t'es de Cannes parce que tu sais, nous en Suisse, tout au même endroit, c'est plus facile à se rappeler. Alors au niveau de la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui a vraiment changé, en bien ou en mal, entre l'Irlande et puis Cannes?
Bah alors, le truc le plus évident, et je pense que les gens, quand on parle d'Irlande, ont ça en tête, c'est la météo. Surtout
J'ai
comparé à
entendu,
Cannes.
c'était un peu trash quand même, non?
Ah oui, la météo, c'est assez dur. Et souvent, au bureau, les gens rigolaient en disant ouais, mais à Londres, ils ont trop de chance, il fait super beau tout le temps, ils ont encore eu du soleil un jour la semaine dernière. Donc vraiment, j'ai passé un hiver, je pense que j'ai pas conduit une seule fois sur une route sèche.
Ouais,
Donc voilà.
je suppose que ça doit influencer sur le moral aussi, surtout quand tu viens de Cannes, qui est plutôt ensoleillé là, hein.
Ouais, c'est différent. Disons qu'il faut s'habituer à ça. Il faut pas aller en Irlande en se disant voilà, il va faire beau et on va faire plein d'activités dehors. Il faut dire voilà, on va faire des activités dehors, mais il va pleuvoir.
Si je peux me permettre d'intervenir, parce qu'en fait là, il parle de l'hiver, mais moi personnellement, quand j'étais en congé, c'était le mois d'août. Et là, je vois les photos. On est quand même avec le blouson que j'ai maintenant à Nice, bon, presque en hiver, quoi, on va dire. Il y a un pays, enfin, l'été n'est, c'est pas comme chez nous, quoi. Voilà, ça nous a quand même, c'était différent.
Et Oui, l'hiver est relativement doux en plus à Limerick. C'est-à-dire que, enfin, bon, disons par rapport à un hiver parisien, c'est à peu près, enfin, c'est beaucoup plus pluvieux, mais en termes de température, c'est pas plus froid. Donc, ça se sent vraiment surtout en automne, au printemps, qui sont beaucoup plus froids que chez nous, et en effet en été, comme le dit Julie. Leur hiver est sale, mais pas si sale que ça, en tout cas par rapport au nord de la France.
Quand on voit les photos d'Irlande, il y en a des vraiment magnifiques, hein. C'est un pays qui a des très beaux paysages, mais on n'a jamais l'impression qu'il pleut beaucoup. Donc c'est quoi, il y a un jour dans l'année où il pleut pas et tout le monde sort pour aller dans la nature puis pour faire des photos, ou bien tu sors quand même quand il pleut, enfin tu t'arranges comment? Tu dois quand même sortir, sinon tu déprimes chez toi.
C'est ces salauds de photographes qui prennent les photos que
Mais
quand
c'est
il
ça,
fait beau.
et même toi, hein.
Je sais, ouais. Oui, non, c'est vrai. La plupart du temps, mais on prend pas, tu prends pas de photos quand la luminosité est merdique, en fait. Donc, du coup, ça biaise fortement le. Non, il pleut très, très, très souvent. Enfin, là, en cette période de l'année, ce serait vraiment, c'est très, très, très surprenant si jamais il pleuvait pas dans la journée, quoi. Et en effet, si jamais les routes étaient pas mouillées le matin. On a eu un très bon été. Cet été, donc il y a eu plusieurs jours consécutifs de beau temps et il faisait plutôt chaud. Mais plutôt chaud, c'est quoi? Il faisait peut-être 26 degrés, quoi. C'est très chaud
Et là, du
pour.
coup, des gens ont chopé des insolations, il y a annonce de canicule en Irlande.
Exactement, oui, non, ils prennent des coups de soleil et des insolations à 26 degrés. C'est assez drôle, mais pas
Oui.
drôle pour eux, mais oui.
L'été où j'y étais, en fin d'été, il y avait eu 15 jours de soleil d'affilée. Et effectivement, donc ils appelaient ça déjà une canicule. Et il y avait donc des gens partout, mais il faisait quand même assez frais, juste il faisait soleil, et il y avait des gens partout qui buvaient du cidre dans les terrasses des bars et tout ça, alors qu'il faisait 20, 22 dehors, quoi.
Ouais,
Et donc voilà, ça allait vite, quoi.
de temps en temps, à 16 degrés, tu commences à voir 16 degrés et soleil, tu commences à voir des Irlandais qui sortent des chaises longues. Et qui se balade torse nu, ça fait un peu étrange.
Mais aussi par rapport à la météo, moi ce que j'avais remarqué quand on était à Limerick, c'est que bah moi dès qu'il y a 3 gouttes, je sors le parapluie, je mets la capuche. Et eux là-bas, enfin, ils sont quand même vachement moins regardants, quoi. Tu les vois beaucoup marcher sous la pluie, bon bah
Il y a une
ah, ils ont les
raison à
cheveux qui
ça.
frisent, ils s'en foutent, quoi.
Il y a une raison à ça, enfin, que des Irlandais m'ont expliqué assez tôt quand je suis arrivé à Limerick et quand je m'étais acheté un parapluie et qu'en effet je sortais mon parapluie. L'espérance de vie d'un parapluie est très limitée à Limerick avec le vent.
Je veux bien te croire, ouais.
Donc généralement, tu sors ton parapluie, il dure 4-5 jours, il pète et. Puis au bout d'un moment, t'en as marre de les utiliser comme consommables. Enfin bon, je pense que ça dépend de la qualité du parapluie. Mais moi, c'est ce que m'avaient dit les Irlandais. Et j'ai pété 2 parapluies. Donc j'exagère un peu en disant 5 jours. Hein, ça dure peut-être un mois, un peu plus d'un mois. Mais bon, voilà.
Il y a une solution alors pour ça. Tu t'as pas vu ce truc sur Kickstarter là, le parapluie, tu sais, qui souffle de l'air en haut et du coup l'eau elle te tombe pas sur la tête. Bon, il te faut une batterie et tout, ça doit durer 5 minutes, mais
Pas essayé, mais à mon avis, avec le vent, ça doit pas marcher très bien si c'est.
ouais, je pense aussi que ça doit être moyen. Mais bon, on sait pas. Dans le futur, peut-être on aura des parapluies laser, tu vois, spécifiques pour l'Irlande. C'est pas mal. Mais voilà un sujet de recherche, David. Tiens, au lieu de faire de l'intelligence artificielle.
Les parapluies.
Les parapluies laser, ouais. Bon, on délire, hein, mais c'est dimanche matin, vous nous en voulez pas trop. Alors bon, voilà pour le chapitre de la météo. Un truc qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est toutes les histoires de consommables. Et il me semble que moi, je vois l'Irlande quand même comme une île, un petit peu. Et donc, j'ai l'impression que tout doit y être cher, un petit peu. Je sais pas, même si on prend la Nouvelle-Zélande, par exemple, où tout a tendance à être un petit peu plus cher. C'est aussi votre feeling comparé
Tu
à
as
la
tout
France,
à
par
fait
exemple?
raison. Tu as tout à fait raison. Peut-être pas par rapport à la Suisse, mais par rapport à la France, ouais, carrément. La bouffe, enfin la bouffe est plutôt plus chère qu'à Paris, et Paris est une ville très chère en Europe niveau repas.
Ouais, c'est pas Londres, mais c'est pas loin non plus, hein.
T'as eu le même feeling, Nico?
Ben non, moi pas vraiment, parce que j'ai trouvé qu'au contraire, c'était. Surtout si tu cuisines, c'est plutôt bon marché. Tu as de l'excellente viande qui coûte quasiment 30-40% moins cher qu'en France.
Un...
Et après, même dans les restos, bah, alors surtout à Limerick, un peu moins à Dublin, où Dublin c'est un petit peu plus cher, mais les restos sont assez raisonnables, tu manges bien pour pas très cher. Et surtout, si, alors je sais que toi t'aimes pas la bière, David, mais l'alcool dans les pubs est vraiment très très peu cher. T'as des pintes de Guinness à 3 euros.
Alors, le niveau viande, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est l'un des rares avantages. La viande est moins chère qu'en France et bonne en effet. La carbonise quand il la cuise, mais si jamais tu cuis ta viande tout seul, c'est très cool. Par contre, niveau resto, je suis pas d'accord, et surtout dans les restos pas chers en fait. C'est-à-dire que tu vas payer ton kebab aux alentours de 5-6 euros, ce qui serait voire plus, ce qui serait pas le cas à Paris. En plus, c'est pas super bon. Tout ce qui est pas cher est assez cher. Enfin, tout ce qui est en nourriture bon marché, restaurant, je trouve est plus cher qu'en France. Et mis à part la viande, je pense que la nourriture en supermarché est plus chère qu'en France. Je dirais. Après, les restaurants moyens de gamme, je pense que tu as raison. Ça doit être équivalent, ou peut-être de temps en temps même un peu moins cher, quoique les pizzas emportées, tout ça, c'est super cher par rapport à Paris.
Oui, mais oui, c'est vrai que, mais
Ouais.
comme tu dis, oui,
Ah.
le moyen de gamme est pareil ou un petit peu moins cher. Oui.
Ok, d'accord. Ouais, donc ça dépend du budget, mais ouais, ok.
Mais en fait, nous, niveau resto, on mangeait pas mal dans les pubs. Et du coup, c'est vrai que bah, quand tu vas manger au pub, tu payes moins cher que quand tu vas dans un resto lambda en France, quoi. Et puis en plus, bon, c'est vrai que nous, on vient de la Côte d'Azur où un kebab à 5 euros, il faut quand même s'accrocher pour le trouver, quoi. C'est en général plus
Ouais.
cher que ça. Donc, on n'était pas. Si tu veux, sur le bas de gamme, c'était peut-être non,
Ouais.
pareil. Et puis sur les pubs, nous, on trouvait qu'on mangeait par rapport en France où t'as pas ce type de restauration, en fait. C'était intéressant.
Et niveau alcool, alors je sais pas trop pour la bière dans les pubs, c'est peut-être un peu, enfin moi je suis plutôt sur le campus, donc généralement c'est 5 euros la bière sur le campus, donc je crois que c'est à peu près pareil que Paris. Mais par contre, l'alcool acheté dans des supermarchés, ou dans les comment ils appellent ça, les endroits où tu achètes de l'alcool,
Les off-license.
merci, exactement, acheté dans les off-license, est plus cher qu'en France pour le coup. Même la bouteille de Baileys, qui est pourtant une spécialité locale d'Irlande, est plus chère en Irlande qu'en France, de quelques euros, à cause de leurs taxes sur l'alcool qui sont très élevées.
Oui, à la limite, c'est quasiment plus intéressant d'aller au pub que de
Sans
l'acheter en supermarché. Oui.
doute, oui, surtout pour les pubs en ville, je pense, pour le coup.
Ouais, donc en fait, si je vous écoute, il faut manger que de la viande et boire que de la bière. C'est un peu le paradis pour beaucoup de gens, je crois. Et là, vous avez parlé de la nourriture, mais quand on vit sur place, je suppose qu'on a aussi d'autres frais, je sais pas, normaux, quoi, les frais du ménage. Vos frais de ménage, entre guillemets, c'était aussi un petit peu plus cher, je suppose, qu'en France.
Les produits d'entretien, etc. Je
Ouais,
pense que c'est.
produits d'entretien, je sais pas, ça peut papier toilette, enfin tout ce que t'as besoin pour vivre en fait, hors bouffe, quoi.
Je pense que c'est légèrement plus cher qu'en France, oui. Sauf si jamais tu achètes vraiment tout chez Aldi ou Lidl, qui sont les go heavy discount locaux. C'est un peu partout pareil en Europe d'ailleurs. Sinon, c'est légèrement plus cher, je pense. Je suis moins sûr, hein, pour les produits d'entretien, objectivement, mais j'ai moins fait gaffe au prix. C'est des trucs que tu achètes,
Plutôt rarement, ouais.
oui, plutôt rarement. Donc, il me semble pourtant que oui.
Mais ton avis, Nico, là-dessus, bon.
J'ai pas un avis très fort. Je pense que oui, c'est pareil.
Ok. Alors bon, on a parlé un petit peu de l'argent et tout ça. C'est bon, on a vu que c'était un poil plus cher qu'en Suisse. Voilà. Alors la question que j'avais à poser, c'est les salaires. Alors même si vous n'avez pas forcément reçu des salaires irlandais, mais si tout coûte plus cher, les Irlandais ont donc un salaire moyen plus élevé qu'en France. J'ai pas fait mes recherches là-dessus.
Pour ce qui est d'un salaire moyen, je ne sais pas. Ce que j'ai entendu dire, c'est que enfin, c'est ce que tout le monde dit, et je pense que c'est vrai, c'est que l'imposition est moins élevée en Irlande pour les gens qui ont un salaire là-bas. Pour ce qui est de, enfin, bourse de thèse, moi je suis à 1005, ce qui est bon, ce sera à peu près la même chose en France dans le domaine où je suis. Ça me semble ni extraordinairement élevé ni extraordinairement bas.
C'est moyen, quoi.
Ouais, pour une thèse, pour une bourse de thèse.
Mmh.
En étant dans une matière scientifique, dans les sciences sociales, c'est beaucoup moins élevé que ce soit ici ou que ce soit en France.
Partout, de toute façon, à mon avis. Ouais. Et toi, Nico, alors?
Ouais. Alors moi, je sais pas. Moi, j'avais mon salaire français quand j'y étais, mais globalement, les gens étaient payés à peu près pareil, sachant que ceux qui souvent les gens commencent pas leur carrière par un CDI. Ils commencent par ce qui s'appelle le contracteur. Et en fait, c'est un truc où t'as quand même t'as pas mal de flexibilité d'insécurité, disons, dans ton travail comparé au CDI français. Et donc, ils sont payés plus. Donc, c'est quand même un statut assez intéressant. Et les gens, les jeunes qui travaillent plutôt dans des jobs hein, genre cadre, sont plutôt mieux payés qu'en France parce qu'ils ont ce statut un petit peu de contracteur et ensuite ils passent sur un travail normal. Et au niveau de l'imposition, juste pour revenir sur ce que disait David, l'imposition est très intéressante pour les sociétés, mais en général pour l'imposition personnelle, c'est moins intéressant parce que c'est 20% sur les 30 000 premiers euros et ensuite 40% fixe sur tout ce qu'il y a au-dessus de ça. Donc en fait, pour les gens qui ont des gros salaires, c'est quand même assez violent.
Sachant que, t'as rien qui est compris dans tes impositions. Enfin, t'as pas de sécurité sociale, t'as pas de. La scolarité est payante. Enfin, c'est. Faut le prendre aussi en compte, quoi.
Ouais, donc, c'est pas forcément plus intéressant d'être là-bas qu'en France, par exemple, au niveau argent, quoi. Enfin,
différent.
Ouais. Du feeling que vous avez, des gens que vous avez fréquentés qui ont, ou qui auraient en France à peu près le même statut social, c'était plutôt une meilleure qualité de vie, plutôt moins bonne. C'est quoi votre. Alors, c'est du feeling, hein, parce que c'est compliqué à comparer.
Moi, je dirais plutôt meilleur parce que, enfin, rien qu'au niveau de l'immobilier, dès que tu sors un petit peu de Dublin, tu peux quand même avoir un bel appartement avec deux pièces, deux salles de bain, 80 mètres carrés pour 600 ou 700 euros par mois, ce qui est quand même intéressant. Et donc, je pense que les gens gagnent pas mal à ce niveau-là. Et ensuite, pour le reste, c'est à peu près comparable.
Bon, moi, de toute façon, je suis beaucoup moins enthousiaste hein, pour.
Mais t'as le droit, hein.
pour les. Ne serait-ce qu'à cause du. Mais par contre, Nico a raison. C'est vrai que s'il y a un truc, en tout cas, en dehors de. Mais en même temps, je compare Limerick à Paris et moi. Donc, s'il y a un truc sur lequel c'est intéressant, j'allais dire, c'est les loyers qui sont. Pour le coup, moins cher. Enfin, quand t'es pas dans un village étudiant super cher, là, on loue une baraque qu'on partage à quatre avec quatre chambres, donc pour 1 000 euros par mois. Ce qui me semble, ce serait inenvisageable. Ouais, voilà, c'est exactement. C'est absolument rien. Mais globalement, ne serait-ce que pour le temps, ne serait-ce que pour aussi le. Bon, enfin, j'aime pas trop la nourriture irlandaise personnellement, ne serait-ce que pour aussi le coût de certaines choses. Personnellement, je préfère l'absence de sécurité sociale aussi. Je préfère de loin la vie en France ou dans d'autres pays d'Europe, mais bon, c'est perso.
Oui, de toute façon, c'est comme dans tous les pays où on veut s'expatrier. Hein. Il faut le calculer avant, le tester, puis après savoir si on veut rester ou pas. Je suppose, il n'y a pas vraiment de solution parfaite non plus, je suppose. Mais c'est intéressant. Je me demande si des endroits comme l'Irlande, où il y a des grosses sociétés, il n'y a pas aussi les prix qui augmentent à cause justement des Google, Apple et de tous les gens qui travaillent pour ces sociétés-là, souvent avec des salaires des pays desquels ils sont envoyés, quoi. Je me demande s'il ne va pas y avoir les mêmes phénomènes avec justement les maisons qui deviennent plus chères et tout ça. Ça sera intéressant à voir sur plusieurs années, je pense.
Ça doit surtout être vrai à Dublin, ça, je pense. Mais
Et pas dans l'Irlande entière, hein, juste dans les endroits où les grandes bases sont, quoi.
Ah oui, je pense qu'il y a cet effet. Et surtout quand tu prends des vols Dublin-Paris ou Dublin vers le sud de la France, il y a beaucoup de Français, il y a pas mal de Français sur le vol qui bossent dans des sociétés comme ça, oui.
On verra. Alors, on a parlé un petit peu des coûts et tout ça. T'as parlé de la bouffe irlandaise, David, et ça tombe bien parce que du coup, tu dis que t'aimes pas trop, mais alors j'aimerais savoir ce qu'il y a à manger en Irlande, justement. Alors, tu nous as parlé de pizza et kebab, mais bon, ça, c'est pas très irlandais.
des patates, des pommes de terre sautées, des frites, des hachis parmentiers, de la purée, des je vais continuer. Non, il y a beaucoup de choses.
La patate sous toutes ses formes.
Il y a beaucoup de choses à base de pommes de terre, mais disons que je pense que c'est un peu leur pain finalement, les pommes de terre. C'est-à-dire ils ont ni une culture du riz ni une culture du pain
blé.
En Irlande, du blé, ouais. C'est un peu leur truc de base. Bon, perso, je suis pas un grand fan, mais c'est je pense que pour le coup, ça c'est une question d'habitude, mais je trouve aussi que leur alimentation est pas variée et que globalement, ce que l'on trouve de pas très cher en tout cas est aussi vraiment pas bon et moins bon que ce qu'on aurait en France, qui pour moi renforce le côté cher de la nourriture, c'est-à-dire que j'ai l'impression de payer plus cher que ce que je paierais. Donc mon point de comparaison c'est Paris, hein, juste parce que je viens de là-bas, ce que je paierais à Paris, de, sans parler de, je sais pas, Berlin ou d'autres villes que j'ai visitées. Je considère le rapport de qualité-prix à Paris déjà mauvais, et je le trouve en tout cas sur ma gamme de prix où je vais tous les jours, encore plus mauvais en Irlande à ce niveau-là, et je me lasse très vite de la nourriture. Après, j'ai quand même eu quelques expériences très sympathiques aux Aran Island, un endroit touristique pourtant où j'ai bouffé de la nourriture assez exceptionnelle pour pas trop cher. J'étais vraiment bluffé. Et ce que je dis est surtout valable à Limerick, c'est-à-dire que pour le coup, à Dublin, il y a quand même beaucoup plus de choix de nourriture. Ça reste pour moi un rapport qualité-prix moins intéressant que Paris, mais pour le coup, il y a plein de trucs bien corrects. Il y a du choix, il y a de la variété. Mais à l'endroit où je vis, en tout cas à Limerick, je suis surtout frustré par le fait de pas avoir le choix.
Mais genre, il y a aussi des restaurants indiens, chinois ou des trucs que t'as dans toutes les villes, quoi.
Tu vas avoir un restaurant japonais à Limerick qui est ouvert récemment, d'ailleurs. Tu as quelques restaurants thaï, mais c'est des gammes de prix quand même où tu vas pas tous les jours. Je veux dire, le restaurant japonais, t'es sur du minimum plus de 20 €. Les restaurants indiens, la plupart du temps, ça va être ce genre de prix. En fait, en nourriture pas chère, il y a la nourriture de campus qui est quand même pas chère à 6-7 €, voire qui peut monter plus haut que ça encore. Il y a le pizza kebab qui te fait aussi un petit peu de nourriture chinoise et un autre truc en même temps. Enfin, le multi spécialiste pas cher qui est pas très très bon. Et après, il y a plein de fast-food de type McDo, KFC, etc. Et puis des fast-food un petit peu plus de luxe. Bon, aussi un autre de mes gros problèmes ici, c'est que j'aime la viande plutôt, alors soit vraiment asiatique, cuite
wok.
Dans des plats asiatiques, éventuellement wok, etc. Soit la viande plutôt saignante. Et généralement, quand je demande un steak saignant, en imaginant que j'aille dans un restaurant généralement assez cher où ils acceptent d'en servir, la serveuse me regarde avec un air très bizarre, me fait une réflexion du genre « Comment est-ce que vous pouvez manger ça ?» et me sert un truc que je considère comme à point en France, ce qui est assez frustrant. Mais voilà, donc généralement, je suis pas un paradis gastronomique pour moi, en tout cas. Mais bon, ça dépend de ce qu'on aime aussi. C'est vraiment une question de goût, je pense.
Mmh. Et toi, Nicolas, ton feeling là-dessus?
Ben, alors moi, j'ai quand j'étais en Irlande, j'étais avec principalement des Irlandais. Donc on a fait un peu de cuisine maison. Et ce qu'il faut savoir, donc il faut faire attention si tu vas chez quelqu'un, c'est que pour eux, la notion de cuisiner est pas vraiment la même chose qu'en France. Ouais. C'est-à-dire que je me suis déjà retrouvé avec, quand c'était le tour de mon ami de faire la cuisine, de me retrouver avec un toast sur des haricots en boîte, avec un peu de beurre sur le toast. Et passer ça au micro-ondes.
C'est la cuisine célibataire, ça. Hein.
Voilà, c'est ça. Et donc, chez eux, cette notion de cuisine maison est quand même un peu moins poussée. Donc, voilà.
Ouais, Dans le genre, moi, j'ai eu droit à, ouais, on va organiser un barbecue. Et le barbecue consistait à, ils avaient acheté du pain en burger, ils avaient des steaks surgelés qu'ils ont réchauffés au micro-ondes. Et c'était le barbecue.
Ah ouais, ça doit tellement décevoir.
Ah ouais. Donc la cuisine maison, faut faire attention, faut bien demander avant ce qu'on va manger. Mais après, on a eu des bonnes expériences dans le sud de l'Irlande, vers Cork, vers Galway, toutes ces choses-là. Il y a quand même une bonne génération de cuisiniers qui sont dans des pubs gastronomiques, des trucs comme ça. Et il y a des trucs très très bons. Mais effectivement, ça reste assez cher. C'est entre les 15-20 €. Voire plus, mais il commence à avoir une vraie cuisine irlandaise qui, je trouve, est meilleure que la cuisine anglaise. Plus de spécialités, ils reprennent un petit peu leurs vieux plats à base de pommes de terre, ils les améliorent ou des choses comme ça.
Et toi, Julie, alors, qui a pu aller, alors, moins longtemps, mais ton feeling sur la nourriture là-bas?
Moi, franchement, je suis assez facile niveau bouffe. J'aime beaucoup de choses, notamment le poisson. Et du coup, c'est vrai que ils ont pas mal de plats, ils font une petite soupe, alors tu peux la prendre en entrée ou en plat. Moi, j'ai mangé que ça. Et j'y étais, enfin, mes beaux-parents, ils sont allés, ils ont mangé que ça aussi. Enfin, c'est vraiment une petite soupe avec des fruits de mer, des crevettes. Enfin, moi, j'adore, je me suis régalée. Pas mal de trucs à base de poisson, des beignets de crabe, des trucs vraiment sympas. Alors, c'est vrai que c'est plutôt de la nourriture de pub. Et moi, je trouve plutôt bon marché, à l'inverse. Ensuite, c'est vrai qu'on avait fait un super resto à Dublin. Parce qu'en fait, on logeait chez un gars qui était critique gastronomique. Donc, wow. Il nous avait recommandé plein de restos. Il nous avait recommandé une super pizzeria. Bon, même si on a dit, quand même, on vient pas à Dublin pour bouffer des pizzas, mais on y est quand même allé. Et pour le coup, le resto était excellent. Alors, c'est vrai que nous, on s'est dit, bah, on dirait de la bouffe française, en fait. Mais c'était pas mal. Et alors, c'est vrai que le fait de pas rester très longtemps, bah, tu te lasses pas parce que tu manges de la bonne viande. Les burgers sont sympas, quasiment partout, ils font des burgers super super bons par rapport à ce que tu pourrais attendre dans un resto français basique, quoi. Donc moi, sur la bouffe, j'étais à l'inverse agréablement surprise, surtout par rapport à Londres, par exemple, où moi personnellement, je trouve que les Anglais, ils ont zéro gastronomie, quoi. Soit ils mangent des trucs pas de leur pays, soit ça a pas trop d'intérêt.
Et t'as pas été manger chez Gordon Ramsay, c'est pour ça?
À Londres?
Ouais.
Je suis allée chez Jamie Oliver, c'est vrai que c'est pas mal.
Ah oui, oui, bon, bah ouais, tu vois.
Tu peux pas y aller tous les jours, malheureusement. C'est un peu
ouais,
cher.
Non, c'est pas de la bouffe de tous les jours, hein, de toute façon. Donc, c'est vrai que tu peux pas vraiment comparer, avec ça.
Et Jonathan, un dernier truc sur la bouffe, peut-être. Ce qui est quand même excellent, c'est l'Irish Breakfast, qui ressemble beaucoup à l'English Breakfast. Qui d'ailleurs, j'arrive pas à faire la différence. mais c'est quelque chose de très sympa de se faire un gros petit déjeuner le matin et de manger léger à midi. Et c'est un bon moyen de, quand tu voyages ou quand tu visites et tout ça, c'est quand même sympa.
Alors, au début, je ne mangeais que ça, parce qu'en arrivant, c'était le truc que je trouvais bon, tout le reste, je trouvais ça bof. La différence, c'est que dans l'Irish breakfast, tu as de la patate, t'en as pas dans l'English breakfast, et dans l'English breakfast, tu as des tomates, généralement. L'Irish breakfast est encore un petit peu plus lourd que l'English breakfast, mais tu fais quand même très rapidement une overdose. J'en ai mangé, disons, un matin sur deux pendant quasiment un mois, et après je pouvais plus en voir, même ne serait-ce que m'approcher du truc, je voyais,
c'est un
j'ai
peu gras, quoi.
Et j'ai pris pas mal de poids, j'en
plusieurs voilà, c'est
kilos
ça.
avec ça aussi. Donc c'est vrai que c'est sympa. Si jamais vous passez en Irlande un petit peu, c'est vraiment le truc à ne pas manquer, parce que c'est bon, quoi. Enfin, c'est vraiment bon. Mais bon, en version vie de tous les jours, c'est pas si cool que ça, je dirais. Et ça, pour le coup, il y en a partout. Ouais,
finalement, nous, quand j'étais en vacances là-bas, on faisait souvent ça, puis en disant, ouais, le midi, on va manger léger, puis finalement, tu manges pas vraiment léger non plus le midi, puis le soir, tu fais un vrai repas. Et à la fin des vacances, t'as pris facile 5 kilos, quoi, en 10 jours.
Moi, je mangeais pas le midi, et pourtant, je prenais quand même du poids derrière. Mais
c'est les trucs qui sont pas très gênants en voyage, on va dire, mais c'est vrai qu'en expatriation, c'est des petits trucs auxquels il faut réfléchir, quoi. C'est ça.
Exactement.
Ça fait partie des différences, hein. Bon alors après nous avoir donné ouais non quand même enfin ton English breakfast là on est Irish breakfast pardon on est dimanche matin donc ouais je dirais pas non là tout d'un coup même si moi j'ai des patates ouais bon ça va
oh, c'est juste c'est assez sympa les patates qu'ils mettent là-dedans c'est des patates plus ou moins je sais pas trop comment décrire un petit peu écrasées mais c'est pas vraiment de la purée et
ouais, auquel ils donnent une forme
ouais voilà des galettes de ouais voilà exactement c'est très sympa et ça se mélange très bien à un petit déjeuner.
Avec la confiture aux fraises.
Non, je crois pas. Je pense pas qu'il y ait de confiture avec l'Irish breakfast. Non, il y a que du sel.
Alors, bon, on a parlé nourriture. Alors, un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est par rapport à la météo. Tu nous as dit que, ben, du coup, ben, quand il fait mauvais, tu as tendance peut-être à rester un petit peu chez toi parce que bon, sortir sous la pluie, aller se balader dans les montagnes, c'est peut-être pas terrible. Du coup, au niveau relations sociales, ça se passe comment, tu vois? Est-ce que les gens, tu nous as parlé des pubs, est-ce que les gens se réunissent au pub pour se voir? Est-ce que, comment ça se passe socialement d'être là-bas en tant qu'expatrié? Alors, Nicolas, si tu veux nous le dire?
Oui. Alors, moi, j'ai trouvé ça, extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai jamais, dans un pays, je me suis jamais senti aussi bien accueilli parce que en fait la grande différence c'est que dans une ville comme Limerick par exemple qui a 50 000 habitants, je pense qu'il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine de pubs en centre-ville. Ce qui fait qu'il y a vraiment la capacité et donc en fait tu peux rentrer dans un pub et t'asseoir. Tout le monde est assis contrairement au pub à Londres où tout le monde est debout et en train de crier sa commande et tout ça. En fait tout le monde est assis, il y a beaucoup de gens qui sont assis au bar qui lisent le journal et en fait même si tu vas tout seul et que tu commandes une bière au bar, déjà t'as ton accent français, donc ça commence la conversation avec le serveur, puis tu commences une conversation avec le mec qui est à côté de toi et le mec qui est de l'autre côté, et en fait tu peux avoir des vraies conversations de bar, un peu comme il y avait en France il y a 30 ans, et en fait tu c'est assez facile de s'intégrer, de discuter avec tout le monde, ils sont très très ouverts, et les pubs c'est vraiment l'endroit où ils se réunissent après le travail, avant le travail pour les pires. Et donc c'est le vrai lieu où ils vivent en fait.
D'accord, ouais. Donc t'as vraiment un moyen quand même. Alors je sais pas au bout de combien de temps, mais t'arrives à te faire un petit peu parce que tu dis les conversations de bar c'est sympa, mais des fois t'as envie d'aller peut-être faire d'autres choses et du coup tu trouves des amis ou des connaissances, je sais pas, avec qui aller au cinéma ou j'en sais rien. T'arrives à le faire justement en fréquentant les pubs.
Alors ça je sais pas, peut-être, enfin tu vas peut-être pas trouver ton meilleur ami dans un pub et tout ça, mais la plupart des gens qui vont là-bas ils vont pour travailler ou autre chose. Donc moi au travail j'étais avec des Irlandais, des vrais Irlandais, certains que je connaissais d'avant, et en fait ces gens-là, une fois que tu commences à te faire ami avec des gens au travail, ils t'emmènent dans les pubs, ils te présentent leurs amis et les gens sont très très ouverts. Et donc assez rapidement, tu peux former des très bonnes relations avec des gens locaux, et bah, tu vas faire beaucoup d'activités avec eux, aller faire du paintball, aller dans les pubs, aller tout ça. Donc moi, j'ai trouvé que c'était assez facile de se faire un cercle d'amis sur place si t'as quelqu'un qui peut t'introduire un peu au début. Mais vu que t'y vas pour le travail ou pour autre chose, tu trouveras normalement sans trop de problèmes ce genre de relation.
Ouais, t'as au minimum le collègue de bureau qui peut t'amener là-bas, quoi.
Ouais.
Ok. Et toi, David, alors ton feeling, alors toi, t'es dans un milieu étudiant, donc c'est peut-être différent, je suppose, que le milieu d'entreprise, je sais pas.
Oui, c'est assez différent. Je pense que Nico a raison, que globalement, les Irlandais sont plutôt accueillants, etc. Et que c'est normalement, pour quelqu'un de normalement constitué, plutôt simple de rencontrer des gens. Après, pour moi, personnellement, ça marche pas du tout, mais c'est-à-dire que c'est pas ma culture, c'est pas les normes sociales auxquelles j'avais pas de mal à me faire des amis en Chine, et je pense que même au Japon, et je pense que pour la plupart des gens, je pense que ce sera sans doute plus dur en Chine ou au Japon, autant en Irlande, j'y arrive pas du tout personnellement, la plupart des gens aussi, parce que je suis sur un campus universitaire, vont plutôt avoir tendance à être des étrangers, du coup, qui vont rester que 6 mois parce qu'ils sont en Erasmus ou qu'un an. Donc, du coup, mon cercle social se renouvelle régulièrement et c'est pas super agréable. Mais je pense que c'est surtout lié à moi. Ça, c'est pas véritablement lié à l'Irlande. C'est vrai que la vie sociale en Irlande se fait en effet essentiellement dans les pubs. J'ai pas trop le réflexe. Enfin, j'y vais de temps en temps, mais je vais plutôt sur le campus par réflexe parce que c'est à côté, parce que c'est l'endroit où j'ai des chances de croiser des gens que je connais. Et ça ressemble plus à une boîte de nuit qu'un pub. Les pubs du campus le soir, il y a énormément de gens, il y a une densité de gens très importante. Du coup, ça ressemble pas vraiment à ce que Nico décrivait, c'était des vrais pubs, enfin au sens vraiment pub. Donc et du coup, non, c'est pas particulièrement. Enfin, généralement, tu connais déjà les gens avant d'y aller quand tu vas dans ce genre d'endroit. Comme quand tu vas dans une boîte de nuit, tu vas pas dans une boîte de nuit sans connaître les gens au hasard pour rencontrer des gens. C'est pas comme ça que ça marche. Donc tu discutes, sociabilises juste avec les gens que tu connais déjà avant et tu rencontres pas de nouvelles personnes dans ce contexte. Pub, un petit peu boîte de nuit de campus, je dirais. Enfin, en même temps, c'est un campus, donc c'est pas non plus tout à fait comme une boîte de nuit, mais c'est pas ce que tu décrivais. Et je pense que fiez-vous plutôt, excepté si vous allez vraiment à l'université de Limerick, dans d'autres cas, fiez-vous plutôt à l'explication de Nico, qui est beaucoup plus généraliste sur l'Irlande que la mienne. Quoique, il y a quand même aussi à Dublin, d'ailleurs, pas mal de Il y a deux types de pubs. Il y a les pubs plus tranquilles, plus pubs traditionnels irlandais, et il y a aussi, je pense, un peu moins la culture de la boîte de nuit qu'en France. Et il y a des pubs qui sont un peu à mi-chemin entre la boîte de nuit et le pub, où ils sont beaucoup plus bondés, où il y a de la musique où on peut pas parler. Ce genre de choses, ça existe aussi à Dublin, en particulier dans la zone hyper touristique de Dublin, qui est Temple Bar, où tu vas avoir essentiellement ce genre de pub.
Oui, exact, je suis d'accord avec David. C'est vrai que t'as beaucoup, mais qu'en fait, qui sont un peu des hybrides, parce que c'est des prix très intéressants comparé à des boîtes de nuit où tu payes les verres à 20 ou 25 euros. C'est plutôt 6-8 euros, et donc c'est quand même assez intéressant ces boîtes-là. Et après, t'as les pubs, moi c'est un peu pour ça que je suis allé en Irlande, c'était les pubs où t'as des vraies cheminées, et donc des vrais feux de cheminée dans le pub. T'as des groupes de musique traditionnelle et tu bois un petit whisky au coin du feu. C'est un peu moi ce qui me faisait rêver en Irlande, et ça existe vraiment. Et ça, c'est quand même, je trouve que c'est une belle expérience, surtout si tu y ailles en voyage ou en vrai, c'est quand même assez, c'est un bel endroit où te créer des relations ou bien pour juste profiter des gens avec qui t'es venu. Quoi.
Ah ouais, tu me parles de whisky et de feu de cheminée. Moi, je suis d'accord. Je pars demain. Il y avait Benoît qui était déjà venu nous parler un peu de l'expatriation et notamment l'expatriation en Irlande. Hein, Benoît Curdy, des podcasts Nipcast, qui nous avait dit aussi. Alors lui, il avait travaillé pour Google justement en Irlande et il disait que t'avais un peu le choix où t'allais avec tes collègues qui sont tous des expatriés, en l'occurrence chez Google, où il y a des alliances françaises ou des choses comme ça, où tu es finalement qu'avec des étrangers. Et lui, ce qu'il avait fait, c'était justement plutôt aller avec des Irlandais, mais du coup, ça demandait aussi un petit peu plus d'efforts parce que ben il y avait quasiment aucun de ses collègues qui était irlandais, donc il fallait qu'il se fasse des relations autrement, quoi. Donc je pense que ça dépend vraiment des endroits où tu travailles au niveau du feeling des relations sociales, quoi. Ça peut être autant facilité que compliqué, quoi.
C'est ça. Alors attention, si vous allez, parce que moi j'étais qu'avec des Irlandais. Je crois que j'étais le seul étranger quasiment de la société. Il y en avait peut-être deux autres sur 400. Mais si vous sortez avec des, nous on faisait souvent des repas d'équipe et tout ça où on était une dizaine. Si vous allez au restaurant ou au pub avec des Irlandais, faut savoir qu'ils rigolent pas. En France, tu vas au resto avec ton équipe, tu prends une bouteille de vin pour quatre. Puis voilà, ça se passe bien, c'est cordial, les gens ne vont pas trop dans l'intime et tout ça, alors qu'en Irlande, j'ai déjà fait des repas où les femmes buvaient 4 ou 5 whisky coca avant le début du repas, et à la fin ne pouvaient plus parler, et on se raconte des vraies histoires de jeunesse, des histoires de mariage irlandais qui durent 3 ou 4 jours de beuverie, des choses comme ça, et moi j'ai adoré, mais c'est faut pas s'attendre au repas un petit peu coincé, traditionnel, avec ton équipe en France, quoi.
Ouais, mais oui, les Irlandais boivent énormément. Ils ont une vision. Alors déjà, ils boivent assez peu à table. Ils boivent après le repas et très, en tout cas pour les jeunes, très concentrés. Et ouais, perso, c'est pas quelque chose que j'aime des masses parce que du coup, les communications sont pas. Enfin, c'est pas pour moi. Je considère que c'est pas vraiment possible de parler parce qu'on est trop bourré. Mais enfin, parce, mais bon, c'est ma vision du truc pour le coup.
Ça, c'est quand même assez différent de la France. Enfin, moi, personnellement, au travail, c'est très, très mal vu de faire ça, quoi. Et là-bas, bah, c'est tout le monde le fait. Enfin, quand Nico il m'avait raconté que la femme, il n'arrivait plus à comprendre ce qu'elle disait parce qu'elle avait trop picolé avant de commencer à manger, tu te dis, ouais, ça, c'est quand même une différence par rapport à chez nous.
Alors, vous voyez, c'est marrant parce que ça me choque beaucoup moins ça, même si c'est pas trop mon truc comme David, mais en Suisse, hein, donc j'ai travaillé en Valais puisque je suis originaire valaisanne. Alors où, par exemple, au dîner d'entreprise, on allait visiter les vignes et aller goûter les vins. Donc même avant de commencer à manger, t'avais déjà goûté une quinzaine, vingtaine de vins différentes, donc où les gens ne faisaient pas que goûter, ils buvaient un petit peu aussi. Là, tout nous, je suis donc en Suisse allemande. Je crois que la dernière fois qu'on a fait un souper d'entreprise, alors moi je suis parti avant parce que c'est pas trop mon truc, mais les policiers sont venus parce que il faisait un petit peu trop la bringue et que c'était 4 heures du matin. Et pour dire, il y avait le chef de notre entreprise qui était dedans et c'est une entreprise qui est cotée à la bourse, qui est numéro 1 ou 2 au niveau du solaire, au niveau mondial. Donc
Mais il y
peut-être
a
que
une
ça me gêne moins ça, quoi.
ouais, il y a quand même une vraie différence. Je ne sais pas pour la Suisse, je serais pas capable de juger, mais les pays les plus latins, en tout cas c'est très vrai pour l'Espagne, pour l'Italie, pour la France, vont vraiment boire en mangeant et avoir une culture de essayer de se maintenir sur une certaine ligne, c'est-à-dire être éméché sans aller trop loin. Tandis que en Irlande, c'est socialement accepté de terminer entre guillemets dans le caniveau ou incapable de parler. C'est vu comme étant normal et comme se mettre bien en quelque sorte. Et c'est véritablement une différence culturelle pour le coup, même si perso j'ai un peu du mal, mais c'est
Après, David, j'imagine que toi, c'est vrai que tu vois pas mal d'étudiants.
étudiant en plus, ouais,
Moi,
je y
j'étais
rajoute
avec,
des choses,
ouais,
mais
dans mon équipe, j'avais des gens qui avaient 30, 40, 50 ans et ils boivent du vin à table, deux bières avant et ensuite du whisky, des Irish coffee, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'ils sont plus quand même dans ce truc de se mettre bien, de se maintenir. Et du coup, quand ils vieillissent, ils deviennent plus
raisonnable,
raisonnables.
ouais, bien sûr. Mais
Ouais, et...
même au niveau des étudiants, tu vois ça entre je sais pas, les Espagnols, les Français et les Irlandais à âge égal sur le campus, la consommation d'alcool se fait pas de la même manière.
Non, ouais, c'est sûr. Et par contre, ce qui est super en Irlande, c'est que personne, quasiment, enfin, j'ai jamais vu, et on est pas mal sortis, personne conduit après avoir bu. Ça, vraiment, ils prennent tous les taxis sont pas chers, il y en a partout, et donc ils ont une culture vraiment saine sur le sujet, quoi.
Bon, je suppose que si t'arrives pas à parler, peut-être prendre la voiture, c'est pas c'est pas vraiment très encouragé, quoi.
Alors, en France, ça les dérange moins.
Oui, bon, mais bon, après, tu parlais des taxis en Valais où c'est connu, on est une région où avec beaucoup de vignes et où les jeunes finissent très souvent bourrés, mais il n'y a pas de taxi, il n'y a plus de transport, donc les gens prennent la bagnole parce que des fois parce qu'ils n'ont pas le choix. Et je pense qu'il n'y a pas un seul Valaisan qui n'a pas des amis qui ont retourné la voiture dans les bois ou qui se sont trouvés dans le caniveau avec la voiture. Bon, c'est et ou voire même ceux qui sont morts. Ce qui est un peu triste pour boire, mais bon, c'est voilà.
Claire.
C'est peut-être un peu too much, on va dire. Mais ok, c'est sympa. Alors, je sais que Nicolas, t'avais pris beaucoup de notes. Est-ce que tu as encore quel sujet tu trouverais qu'il faut aborder pour parler de l'expatriation en Irlande?
Ben, un des sujets que je trouve vraiment intéressant et qui se verra pas tellement en étant en voyage là-bas, c'est la culture, enfin, la culture et les questions de société en Irlande. En ayant vécu un petit peu là-bas, tu te rends compte qu'ils sont 20, 25 ans alors on peut dire en retard parce qu'on peut considérer que c'est bien ou pas bien, mais ils sont 25 ans derrière la France. C'est-à-dire que là-bas, il y avait eu une histoire au moment où j'étais d'une femme qui avait un problème avec son bébé qui était enceinte, et en fait le bébé était en train de la tuer. Si elle gardait le bébé, s'il n'y avait pas d'avortement, elle était en train de mourir. Mais comme le bébé avait encore une pulsation cardiaque, ils ont refusé de faire l'avortement et les deux sont décédés finalement. Et en fait, même l'avortement médical est mal vu. Donc l'avortement classique, j'en parle même pas. Et alors là, le mariage homosexuel en Irlande, on y sera dans très longtemps. Donc ils sont quand même assez traditionnalistes, disons.
Ouais, j'ai refusé de monter dans un taxi qui avait un panneau, enfin une pub dans son taxi avec des photos de bébés morts pour militer contre l'avortement.
Bon, c'est trash, ça.
Et t'en avais partout affiché dans le... Il y a eu une grande campagne il y a quelques mois, justement, je pense, suite à cette affaire, je crois que ça a quand même passé, ils ont voté une loi qui autorisait l'avortement dans certains cas extrêmes quand, justement, la vie de la mère était en danger, et donc il y a eu des manifestations massives partout en Irlande pour s'opposer à cette loi.
Ouais, c'est intéressant, ça, je voyais pas ça en Irlande.
Non, c'est très réac. Okay. Mais alors par contre, ils sont aussi très religion et religion littéraliste, ce qui est aussi assez assez pesant en tout cas pour moi. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a une grosse différence, je pense, entre les plus jeunes générations et les générations plus âgées sur ces sujets. C'est-à-dire que ça m'étonnerait pas que les plus âgés soient carrément 50 ans en arrière, voire plus, et finalement les jeunes Irlandais sont pas si différents que ça des, enfin il y en a une partie qui sont pas si différents que ça des jeunes Français. Bon, j'ai quand même entendu des jeunes Irlandais expliquer qu'il n'y avait pas d'homosexuels en Irlande.
C'est exceptionnel, ouais.
Ce qui était assez rigolo. Pour le moment, c'était, à part le discours officiel d'Ahmadinejad en Iran, j'avais jamais entendu quelqu'un sur son pays prétendre ce genre de choses. Mais bon, globalement, les jeunes sont quand même vachement, vachement plus ouverts.
Oui. C'est vrai que quand tu discutes avec les mères de tes amis, tu peux entendre des choses assez racistes, assez rétrogrades au niveau questions de société. Faut s'y préparer. Mais après, ils font pas ça. C'est pas un truc qu'ils entretiennent entre eux, mais c'est qu'ils ont une culture vraiment traditionnelle jusqu'à il y a pas très longtemps. Après, il y a eu quelques scandales au niveau de l'Église qui font que les jeunes s'en sont détachés et ils sont assez similaires aux jeunes Français ou aux jeunes Suisses. Mais c'est vrai que les gens de plus de 50 ans sont différents, quoi.
Est-ce que c'est si différent que ça? Je veux dire, en Valais, encore une fois, qui est une région qui est restée longtemps quand même un petit peu isolée, si on veut dire. Honnêtement, tu vas dans les petits villages, si tu veux du racisme, de l'homophobie et de tout ce qui va avec, t'en trouves à toutes. Enfin, je veux dire, ils ont été enseignés par des écoles catholiques plutôt violentes et tout ça. Enfin, c'est, ouais, je veux pas dire que c'est des générations qui sont perdues, tu vois, mais de toute façon, ils ont.
Bah, en France aussi, trouves des gens très réacs.
Plus mais de 50 ans, c'est peut-être un peu jeune encore, tu vois, mais je dirais dans les plus de 60, mais c'est presque dur de trouver le contraire, tu vois. Celui qui va être le contraire, c'est le gars qui a voyagé, c'est le gars qui a été expatrié, c'est le gars qui a été, travailler dans une grande ville en Suisse comme Genève, tu vois, c'est qui lui ont donné d'autres visions, tu vois, ou même qui a été travaillé dans un canton protestant, du coup qui était pas catholique, du coup qui lui a peut-être amené d'autres idées, tu vois. Mais je veux dire, ces vieilles générations, enfin, faut pas se leurrer, quoi. Enfin, je sais pas, il me semble que c'est pas si différent que ça chez nous, quoi.
Je sens, enfin, personnellement, une différence. La question de l'avortement est un bon exemple, sans aller vers l'homophobie qui est sans doute malheureusement en effet généralisée chez les plus de 60 ans aussi, enfin peut-être pas généralisée mais quasiment en France et en Suisse. Mais je pense pas que le rapport à l'avortement soit de ce type-là en France ou en Suisse.
Je vais aller en tant que catholique, hein.
Bon, pas en France, dans ce cas-là.
Mais après, tu vois, je parle de la Suisse. Déjà, on a plusieurs religions et c'est plusieurs religions officielles, tu vois, du côté protestant. Par exemple, à Berne, ou je sais pas, je suppose que ça doit déjà être différent, tu vois.
Ça crée de l'ouverture, ça, le fait de... Enfin bon, d'un côté, ils ont aussi plusieurs religions, techniquement, vu l'histoire du pays.
L'histoire du pays, ouais.
Mais bon, je pense pas qu'ils se soient... Ils se sont pas construits en Irlande autour de l'acceptation de la pluralité religieuse. Ce serait plutôt l'inverse. Un mot sur le... On avait vite fait aborder le racisme. Un truc qui m'avait énormément choqué, Donc le pire racisme qui existe en Irlande est vis-à-vis des Irish Travellers, qui sont en gros leurs Roms. Ce n'est que c'est pas des Roms, c'est des Irlandais aussi, mais des Travellers, je sais plus comment dire. Et le racisme envers eux est présent, mais vraiment à tous les étages de la société irlandaise. Tu l'entends sans arrêt. Et j'ai même eu droit une fois. J'ai fait des Français que j'avais croisés là-bas voulaient faire ça. Je les ai accompagnés faire un tour d'Irlande dans un bus, un truc vachement touristique du coup. Et sur le retour, le chauffeur du bus qui faisait guide, qui expliquait, oui, à droite, vous avez l'église, machin, truc, etc., s'est lancé pendant 15 minutes dans un speech raciste contre les Irish Travellers pour expliquer que c'était tous des voleurs, que l'État gâchait de l'argent avec eux alors qu'il faudrait tous les mettre en prison, etc. J'étais halluciné. Je n'ai rien osé dire, j'aurais dû, mais je savais pas quoi dire.
Quand t'es à ce niveau-là, ouais.
Ouais, quelqu'un du Front National n'aurait pas, en France, n'aurait pas osé balancer ce genre de choses aussi ouvertement. Et hop, ça posait pas de problème. Il faisait son speech. Et à gauche, vous avez une église. C'est saloperie d'Irish Traveller. à droite, la pierre machin truc. Voilà.
Une petite anecdote sur ça. Ouais. Moi, on m'avait demandé d'aller donner des cours en fait sur les entretiens et préparation de CV et tout ça dans un lycée. Et en fait, c'était un lycée dans la ville d'Irlande où il y a le plus de travelers, quoi. Vraiment. Donc, c'est l'équivalent du mot un peu gitan pour les Français. Sauf que c'est pas du tout des Roms ou des gitans. Enfin, ils se ressemblent.
C'est des Irlandais.
Ils ressemblent à des Irlandais, mais qui ont des coiffures bizarres, en fait.
Ouais.
Et donc, en étant là-bas, les gens rentraient dans la salle, on disait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et on regardait leur CV et tout ça. Et j'ai quand même des gens qui m'ont dit que plus tard, ils voulaient être bookies. Donc, j'étais un peu étonné. Donc, je leur dis, mais bookies, comment ça, les gens qui prennent les paris? Et oui, c'était bookies pour les combats de chiens. Donc, c'est vrai qu'ils ont une culture un peu différente, mais les gens sont très, très racistes envers eux. Et du coup, eux, ils restent entre eux, et c'est quand même assez. C'est une culture spéciale. Il faut le voir. Et j'ai vu aussi à Limerick, il y avait un mariage de Irish Travellers, et donc à 3 heures du matin au McDo après le mariage, il y a eu des bastons dans la rue de 30 contre 30 et les gens se couraient après et tout ça. Donc c'était assez, c'est assez sportif. Sur ça. Non pas qu'il y a, on se sent vraiment en sécurité partout et tout ça, mais c'est vrai qu'à la sortie des pubs, tard le soir, il peut y avoir un peu ce genre d'événement, mais en étant touriste et pas impliqué, il n'y a pas de souci.
Ouais, puis ça, c'est plus un problème de gens bourrés un petit peu, hein, non?
C'est ça.
Les gens sont déjà cons à l'état normal, mais quand ils sont bourrés, c'est encore pire. Quand ils sont en groupe, c'est encore pire. Ouais. Tu parlais juste, David, t'as dit qu'il y avait beaucoup de religions là-bas, enfin, qu'elle avait de l'importance, mais par exemple, en Valais où c'est, quand même plutôt religieux, à moins d'en parler, j'ai pas l'impression que ça a vraiment d'influence sur la vie, notamment sur la vie au travail, tu vois, c'est pas vraiment forcément des sujets que t'abordes, et quelqu'un peut être hyper catholique et c'est pas dérangeant, tu vois. Toi tu le ressens ou bien parce que
tu le sens dans le tu bon mis à part sur des questions qui peuvent
bon, voilà,
des opinions qui peuvent être liées à genre l'avortement qui généralement ont souvent des fondements religieux. Enfin, tu le sens dans la vie de tous les jours, pas mal de trucs. Tu le sens au nombre d'églises, tu le sens au nombre de gens que tu vois aller dans les églises, tu le sens au fait que la vente d'alcool soit interdite le dimanche matin.
Bon, en même temps, franchement, t'achètes quand même rarement de l'alcool le dimanche matin. Mais c'est drôle.
Oui, mais si jamais tu étais en Irlande, et si jamais c'était autorisé en Irlande le dimanche matin, je te jure, il y aurait plein de personnes qui achèteraient de l'alcool le dimanche matin.
Et tous les jours fériés religieux aussi. Hein.
Oui, tous les jours fériés religieux, oui.
Bon, ça, on a aussi en Suisse, ça, c'est pas. Puis c'est bien, ça fait des congés.
Non, la
vente d'alcool est interdite.
La vente d'alcool.
Jours fériés.
Ouais.
Religieux.
Non.
Si.
Eh, mais en Suisse, il y aurait. On brûlerait les magasins, c'est pas possible. C'est justement là où tu fais ton barbecue, c'est là où tu vas boire avec des amis, c'est là. Non, sérieux.
Pour toi, c'est juste férié, quoi.
Ah bon, de toute façon, moi, je suis pas catholique, donc je sais même pas pourquoi j'ai congé, des fois, mais. De toute façon, même les catholiques avec qui je suis ne savent pas non plus pourquoi ils ont congé. Par contre, on sait qu'on a envie de prendre une bière ensemble, tu vois. Ok, donc c'est excellent ça.
Oui, donc tu le sens beaucoup, tu le sens sur le fait que tu vois, enfin sur le campus, il y a une chapelle et une association catholique assez active. Tu le sens parce que quand tu te balades dans la rue le samedi matin ou le dimanche matin, je sais pas, au moment du marché sur la grande rue centrale, tu vas avoir toutes les religions qui vont avoir leur stand pour faire distribuer des tracts, faire une forme de prosélytisme, etc. Même des musulmans d'ailleurs, ce qui est
Et ça,
un
c'est un peu
surprenant.
Même dans la rue en général. Hein.
Moi, tu veux dire en Irlande
public, souvent, ils t'arrêtent pour te dire « Oui, est-ce que tu sais que tu peux être seulement sauvé par Jésus ?»
Oui, enfin... à Limerick, c'est quand même principalement sur la rue centrale de Limerick où t'as ça. Enfin, personnellement, je l'ai jamais vu dans d'autres trucs ou à côté du marché, enfin dans les zones quand même vraiment à côté de l'université, quand même tu vas, enfin dans des zones purement résidentielles, tu vas pas voir ça, je pense. Mais enfin, en tout cas, je l'ai jamais vu. Mais oui, enfin ça, t'aurais pas ça en France.
Ouais, c'est ok, c'est intéressant. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que bon, je suppose que ça gâche pas vraiment forcément. Enfin si. Ouais, enfin, je sais pas, toi, j'ai l'impression que ça te touche quand même un peu, David, ces histoires.
Ça me touche, ça me touche beaucoup plus quand le coup du chauffeur de taxi avec ses photos de bébé mort me touche plus que le mec qui, enfin, le prosélytisme, j'accepte, c'est le jeu de, c'est le jeu de, le jeu de la chose, enfin, ils essayent de convaincre des gens de se rallier à leurs opinions. Enfin, c'est entre guillemets normal. Je serais heureux de voir une forme de prosélytisme athée au milieu de tout ça, ce qui n'existe absolument
pas. Ça serait
tellement drôle. mais je peux comprendre. Mais c'est plus les conséquences que ça a, ou en tout cas que j'ai l'impression que ça a, sur la vie de la société irlandaise qui me gêne. Voilà. Et ouais, je pense que c'est principalement, ça se sent principalement sur la place de la femme, la question de l'avortement reliée à la place de la femme, l'homophobie, voilà, je pense pas que ça ait d'influence. Je pense que le racisme qu'il y a en Irlande et qui est plus présent en Irlande que dans d'autres pays d'Europe, pour le coup, je pense pas que ce soit lié à la religion. Je pense que c'est un autre phénomène.
Je pense que c'est lié plutôt un peu au monoculturalisme. Comparé à Londres, où il y a, je sais pas, plus de 50% de gens qui parlent pas anglais dans les rues, et enfin énormément d'étrangers et tout ça, en Irlande, surtout quand tu sors de Dublin, il y a quasiment que des Irlandais. Ils voient très peu d'étrangers. Les seuls étrangers, c'est des gens d'Europe de l'Est qui sont plutôt serveurs dans des restaurants et tout ça. Et il y a pas mal de racisme contre les gens d'Europe de l'Est. Et sinon, il y a très peu de gens dans la rue. Tu croises pas vraiment des Noirs, des gens d'Afrique du Nord et tout ça. C'est quand même très en Irlande. Il y a des Irlandais. Et je pense que beaucoup n'ont pas voyagé et tout ça. Et donc ça crée un peu ce truc de racisme, quoi.
Ouais, c'est possible. Enfin, ouais. la multiculturalité, je crois que je l'ai mal prononcé, multiculturalité n'apporte pas forcément toujours de l'antiracisme, mais c'est vrai qu'en principe, ça aide quand même à fluidifier un peu les rapports sociaux. Ok, est-ce que tu as encore un dernier point important, tu dirais, Nicolas, à aborder, qu'on a oublié?
Ouais. Deux, si tu m'autorises.
Mais bien sûr.
Le premier, c'est au niveau de la culture et la langue, disons. En Irlande, t'as quelques gros châteaux où tu peux faire des festins médiévaux, des trucs comme ça, qui sont très très sympas. Mais t'as aussi beaucoup beaucoup de tout petits châteaux, en fait, qu'ils utilisaient pour se protéger contre les invasions anglaises qui ont duré pendant des centaines d'années. Et donc en fait, t'as plein de petits endroits, des petits châteaux que tu peux visiter et qui sont super. T'apprends vraiment beaucoup de choses sur comment ils vivaient, sur tout ça. Et toujours prendre le guide, c'est le plus intéressant. Mais voilà, si tu veux prendre le guide, il faut parler anglais plus, quoi. Parce que l'accent, tout ça, et voilà, faut être assez solide en anglais si tu veux faire des visites en Irlande.
L'accent, c'est quand même un truc dont on n'a pas du tout parlé, mais qui mérite d'être mentionné. Les Irlandais, ont un fort accent irlandais quand ils parlent anglais, et qui varie fortement de région en région, et qui, même avec un anglais à peu près correct, peut rendre la compréhension un petit peu difficile.
Puis si en plus ils sont bourrés, alors là...
Ouais, ça arrange pas.
Ouais, ok, bon point, ouais. Mais bon, ça, tu t'y habitues quand même à force, ou bien...
tu t'y habitues, pas mal.
Ouais, mais c'est bon, c'est pas évident, pas tout le temps.
Bah, surtout au début, quand tu comprends rien, puis tu te dis, ça y est, je vais vraiment galérer, quoi. Ok, oui, donc voilà, visite et les petits châteaux, ça c'est plutôt mignon, ça.
C'est plutôt très sympa, très sympa. Et le deuxième point, c'est au niveau de, on n'a pas vraiment parlé de l'histoire de l'Irlande, mais c'est quand même un des pays où l'histoire a une influence sur ce qui se passe actuellement. C'est que l'Irlande est coupée en deux, avec en bas la République d'Irlande et en haut le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord. Et c'est quelque chose quand même qui s'est, il y a toujours des affrontements tous les ans, surtout en Irlande du Nord, on lève le drapeau, l'Union Flag et l'Union Jack, pardon, et les catholiques du Nord se battent contre les catholiques du Sud se battent contre les protestants du Nord, il y a toujours tout ça, mais on le voit toujours, il y a toujours ces affrontements, même dans le Sud, on ressent quand même ça, parce que moi je suis allé vers le nord de la République d'Irlande, donc au sud de la frontière, et il y a quand même, tu sens quand même des traces, parce que, par exemple, l'ami avec qui j'étais me disait, mon voisin est toujours en prison parce que il avait mis des bombes à Belfast, enfin tout ça. Donc il y a la réconciliation, et dans la République d'Irlande, donc dans le sud, les gens en parlent assez peu et ça commence à se digérer, mais voilà, il y a quand même cette histoire de, ils aiment pas trop les Anglais. Quand on était dans les pubs, il y avait un match Angleterre-Corée du Sud et tous les Irlandais applaudissent quand la Corée du Sud marque, quoi.
Ah ouais, carrément, ouais.
c'est le pays a une proximité particulière avec la Corée du Sud, je pense que c'est pour ça. Hein. Je blague.
Ouais, ça doit être ça, ouais.
ça ne peut être que ça.
Certainement. J'étais en train de réfléchir, tu sais, je disais, qu'est-ce qu'il veut dire?
Non, donc il y a une belle histoire, et qu'on soit en voyage ou en expatriation, je trouve ça intéressant de s'intéresser un peu à l'histoire de comment l'Irlande s'est séparée, un petit peu tous les troubles qu'il y a eu, la grande famine qui a tué 25% de la population, et il y en a 25% qui a émigré. Enfin, l'Irlande actuelle est quand même bien façonnée par une histoire assez dure, quoi.
Je sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou pas. Je me suis pas intéressé à la question, mais cette grande famine, un de mes collègues irlandais en thèse en informatique, pas du tout en histoire, raconte à longueur de journée que c'est une grande famine qui a été orchestrée par les Anglais. Donc
nous c'est ce qu'on a appris pour les visites et tout ça. Et c'est quand même, je crois qu'il y avait 5 millions de personnes dans le pays. Il y a 1 million qui sont mortes et 1 million qui ont émigré. Donc ça a été orchestré par les Anglais qui voulaient rien faire pour tuer les rébellions et tout ça, quoi. Donc c'était quand même assez. Je comprends que 200 ans après, ou même un peu moins que ça, on ait du mal à pardonner ce genre de truc, quoi.
Ouais, moi j'ai de la peine à comprendre ça. Je trouve que ça ça n'a aucun sens d'en vouloir à des gens qui sont morts il y a 200 ans. C'est complètement stupide.
Je suis d'accord avec Jonathan.
Je ne comprends pas ce genre de truc, et c'est toutes ces guerres de religion qui reposent sur des trucs dont personne n'a plus rien à foutre. Je ne comprends pas ça, quoi.
C'est en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense il y a cette histoire de la famine, mais c'est pas pour ça. Enfin, je veux dire, c'est une...
Bah, c'est certainement global, ouais.
Oui, c'est pas que ça. Enfin, je veux dire, on n'a pas parler des choses qu'on peut visiter en Irlande, mais nous on a visité la prison à Dublin. Je veux dire, c'est des événements qui restent pas si lointains à notre échelle, quoi. C'est des gens qui peuvent encore s'en rappeler, des gens qui ont pu vivre ces événements, et ça reste quand même. Alors, la famine, c'était il y a 200 ans, mais c'est des événements qui se sont étalés sur 500 ans de leur histoire, qui font que aujourd'hui, bon, voilà, les Anglais, ça reste l'ennemi naturel, quoi. Alors, c'est idiot, parce que, en plus, enfin, voilà, l'ami de Nicolas qui habitait avec lui en Irlande et qui est irlandais, il habitait à Londres, et je pense qu'il a pas cette haine ancrée en lui, parce que finalement, lui, il fait partie de la génération qui a jamais connu cette colonisation, etc. Mais c'est, si tu veux, quand tu visites, forcément, dans l'histoire qu'il te raconte, il y a le fait qu'ils ont été, opprimés pendant très longtemps, et ça a façonné vraiment le pays. Pas forcément les mentalités, mais parce que voilà, la jeune génération, de même qu'elle n'est pas forcément raciste, pas homophobe, ils sont beaucoup bien différents, mais malgré tout, ça fait partie de leur histoire, et c'est quelque chose d'assez intéressant à voir.
Ouais, tant que c'est de l'histoire, c'est pas gênant, ça, c'est au contraire, c'est important de s'en rappeler, mais ouais. Après,
mais c'est pas que de l'histoire. Il y a 15 ans, t'avais à la frontière entre le nord et le sud des mecs avec des fusils d'assaut militaires qui fouillaient toutes les voitures, qui allaient la police anglaise allait dans le sud pour arrêter des mecs des activistes catholiques. Pareil, les catholiques dans le nord mettaient des bombes à Londres, à Belfast et tout ça. Donc c'est quand même de l'histoire très récente. Hein.
C'est pas faux. Par contre, à l'heure actuelle, il y a pas de frontières réelles entre. Alors, quand tu vas de République d'Irlande vers l'Irlande du Nord, on te contrôle absolument pas. Il y a pas de check, de visa ou de passeport ou quoi que ce soit. Tu
passes comme la monnaie qui change. La monnaie
change.
Les panneaux sont en miles. C'est tout.
Ouais, exactement. Mais voilà. Ce qui m'a surpris, moi, personnellement. Mais
oui,
donc bon,
ça va sans doute,
ils vont sans doute se réconcilier avec le temps. En effet, il faut sûrement un petit peu plus de temps. Mais autant, ouais, je oui, non, mais enfin, vous avez très bien expliqué, en fait.
Oui, puis j'espère aussi que c'est aussi des trucs où plus t'as de gens qui voyagent et moins ça a de sens d'avoir de la haine pour quelqu'un chez qui tu vas bouffer. Enfin, je pense aussi que c'est des choses qui, enfin, j'espère, c'est des choses qui évoluent. Je crois que dans certains pays, ça évolue pas beaucoup non plus avec le temps. Hein, mais bon. C'est peut-être des questions plus importantes que vous, qui concernent pas vraiment VoyageCast, mais voilà, ça fait partie du truc en tout cas. Ben voilà, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire? On s'approche gentiment des midis et je sais que vous avez tous des choses à faire.
Un dernier mot, l'Irlande est un pays extrêmement centralisé aussi, encore plus que la France. Faut savoir que Dublin étendu, je crois que c'est pas loin de 2 millions d'habitants. Pour 5-6 millions d'habitants en Irlande, ça fait plus d'un tiers du pays qui vivent dans la capitale. Et ça veut dire qu'il y a une grosse différence entre Dublin et le reste du pays. Personnellement, je dis ça aussi parce que je sais que quelqu'un d'autre dans VoyageCast avait l'avis inverse. C'était plus, je crois, sur l'Asie, mais le fait d'aller plutôt dans des petites villes. Perso, j'ai énormément de mal avec. J'ai le feeling inverse, sans doute parce que je viens d'une grande ville et que j'ai vécu en Chine aussi dans une ville assez énorme. Je me sens peu à l'aise dans les petites villes, donc ça joue sur ma perception du pays. Et en tout cas, ça joue aussi. Enfin, vous avez le choix entre aller à Dublin ou aller à Limerick ou Cork ou Galway. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même expérience. Là, on a surtout parlé des petites villes d'Irlande. Dublin est quand même beaucoup beaucoup plus multiculturel et ça se sent immédiatement. Enfin, il y a c'est plutôt une immigration indienne en Irlande, mais il y a de l'immigration. C'est une ville mixte qui est très différente du reste de l'Irlande. Il y a un fort antagonisme entre Dublin et les autres villes du pays. D'ailleurs, généralement les Limérickois ou les gens de Galway aiment pas trop les gens de Dublin, et c'est une expérience assez différente. Et personnellement, je pense que je préférerais Dublin au reste de l'Irlande, mais c'est quelque chose de tout à fait personnel.
C'était
sensibilité.
C'était Bobby qui nous avait dit d'aller plutôt dans les petites villes, parce qu'il parlait de Singapour. Je pense que ça peut être vrai dans des très grandes villes qui peuvent te bloquer complètement quand tu y arrives, quand t'as pas l'habitude, tu vois. J'imagine, je viens de Berne, tu vois, où la première fois que j'ai été, enfin la fois où j'ai été à Delhi par exemple, je venais d'une ville de 14 000 habitants. T'arrives dans une ville de plusieurs millions d'habitants dont t'arrives pas à sortir avec de la poussière des gens partout. Peut-être que c'est vrai que c'est plus facile d'aller dans une ville un peu plus humble à côté et puis de remonter tranquillement vers la ville le temps de t'habituer au climat et aux gens, tu vois. Je pense que c'est plutôt ça.
Oui, j'ai bien compris. Je pense que c'est tout à fait valable sûrement pour une majorité de personnes. Mais je pense par contre que ça dépend quand même des gens. Personnellement, je débarquais à Tokyo, j'étais super à l'aise à Tokyo.
Alors t'as peut-être plus l'habitude des villes, justement.
Oui, exactement. Et c'est une expérience personnelle. Je pense que, oui, voilà. Tout à fait. 100%.
C'est vrai que j'imagine qu'un Parisien pur, on va dire, qui arrive dans un petit village au Vietnam de 50 habitants, il va peut-être se sentir très mal. Effectivement, il sera plus rassuré dans une grande ville. Ouais. Donc ça dépend vraiment des gens et d'où on vient, je suppose.
Tout à fait. Et c'est pas du tout quelque chose contre les petites villes. Ce que je dis, c'est juste.
C'est question d'être à l'aise. Ouais. Hein, c'est pas
exactement. Tout le monde n'aura pas les mêmes sensibilités vis-à-vis de ça.
C'est vrai. Et toi, Nicolas, alors, une dernière chose à dire sur l'Irlande?
Au niveau de l'expatriation en Irlande, moi, au jour d'aujourd'hui, si je vais choisir un pays en Europe pour m'expatrier, je pense que j'irai là-bas, parce que les gens, tout ça, puis la culture et le style de vie qui est quand même assez relax, même dans le travail et tout ça, ça m'a vraiment énormément plu ces 6 mois. Et donc, si vous hésitez entre l'Irlande et Londres ou l'Irlande et un autre pays en Europe, moi je conseille vraiment l'Irlande parce que c'est un bel endroit.
Et toi, Julie, alors, un dernier mot sur l'Irlande?
Ouais, un dernier mot, juste pour dire que là on a parlé de l'expatriation, mais moi en tant que voyageuse, enfin que touriste là-bas, c'est quand même un pays qui est magnifique. C'est-à-dire que nous on a fait Dublin. Donc Dublin, il y a énormément de choses à faire. On a parlé de la prison, on peut visiter le Trinity College, il y a énormément de choses à faire. Et après, c'est un pays qui est magnifique. Alors c'est très peu peuplé, on peut se balader en voiture, on voit des paysages. Enfin, moi personnellement, je viens de la Côte d'Azur, j'étais vraiment dépaysée en Irlande, quoi. Moi j'ai trouvé que c'était très très beau, les falaises.
Cliff of Moher, très sympa.
Ouais, les Cliffs of Moher. Nous, on avait fait le Ring of Kerry. Voilà, tu prends la voiture, tu te balades. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'on va y aller en décembre. D'ailleurs, on verra David. Et ensuite, on ira au Connemara. Quand même un pays où il y a des choses à faire. On avait visité Cork aussi, c'était très bien. On a visité la distillerie de Jameson, c'était très intéressant. Il y a en tant que touriste, au-delà de l'expatriation, c'est un beau pays à visiter, quoi. Tous les gens qui y sont allés, ils ont été agréablement surpris, parce que c'est un pays finalement qu'on connaît assez peu, et plutôt époustouflé par ce qu'on peut y voir. Tous ces petits châteaux, des lacs, des trucs, c'est vraiment. Moi personnellement, en tant que touriste, j'ai trouvé ça fabuleux, quoi.
Les Aran Islands aussi. C'est un pays de backpackers. Il y a énormément de backpackers qui viennent visiter l'Irlande. Donc, du coup, c'est facile de trouver des guest house, etc. Ce genre de choses.
Ouais, les bed and breakfast et tout. Ouais. Enfin, il y a quand même des trucs super.
Ok, ben voilà. Alors, j'espère que vous avez eu plein de bons conseils. On a parlé de plein de sujets vraiment très différents. Hein. C'est fou. sur un pays, le nombre de choses qu'il y aurait à dire. On va s'arrêter là, donc gentiment. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Alors, on commence par Julie, tu nous l'as déjà dit au début, mais pour ceux qui l'ont oublié.
Ouais, le plus simple, c'est via Podcast Science.
Ouais, podcastscience.fm, l'adresse Internet. Voilà, où on peut t'entendre régulièrement, quasi toutes les semaines quasiment maintenant.
Maintenant, oui, toutes les semaines, ouais. Mais depuis que j'ai un Internet fiable, qui n'était pas le cas avant.
Ok,
mais ouais,
bah en tout
toutes les
cas,
semaines.
on aime beaucoup t'entendre dans Podcast Science, c'est
Merci,
vraiment chouette.
gentil.
David, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors toi, à des multiples endroits, mais...
Ouais, on va dire Xilcast, XILCAST sur YouTube, et puis sinon David Medernac sur Twitter. Medernac, c'est un peu compliqué, ou Xilrian, XILRIAN sur Twitter. Voilà, ça fait déjà trois endroits, ça fait déjà beaucoup.
Ça fait déjà pas mal. Et toi, Nicolas, ouais. Alors du coup, on te retrouve pas.
Ben si, tu peux me retrouver, c'est un public assez particulier. Moi, je fais du coaching de carrière en finance. Ouais. J'ai créé ma
oui,
société.
Oui, c'est vrai, en plus, oui, c'est vrai.
Donc, c'est mon site internet, c'est www.300financegurus, donc c'est 300 finance, comme finance, et gurus, GURUS.com, et j'écris des articles sur le... j'interview des gens sur le... des experts de la finance sur comment faire une belle carrière dans le monde de la finance.
Ah ben c'est parfait, ça c'est nickel, on mettra ça sur voyagecast.ch bien entendu, c'est super sympa, en tout cas j'étais très content de vous recevoir tous sur Voyagecast, et puis ben du coup bon voyage à Julie et Nicolas qui vont aller gentiment en Irlande en décembre, et puis toi
ouais.
David, je sais pas, quelle est ta prochaine destination? Tu voyages aussi beaucoup toi?
Oui, mais alors là je peux pas voyager tellement beaucoup en ce moment parce que j'ai plus tellement d'argent et que il faut que je m'occupe de ma thèse, donc je voyage au rythme des conférences. Donc si je publie quelque chose à EuroGP qui est à Copenhague, je devrais aller à Copenhague dans pas longtemps.
T'as pu aller au Canada dernièrement grâce à
ouais.
ça quand même, hein.
Exactement, ouais, j'ai pu aller à Vancouver, à Porto, mais je voyage plus trop par moi-même. Ce sera pour après l'Irlande, et je pense qu'il y a de bonnes chances que je retourne voir mon pote qui est expatrié en Corée après l'Irlande. Ça me brancherait pas mal, parce que j'ai eu un très bon souvenir et malheureusement très bref de la Corée. Il y a à peu près un an et demi. C'était vraiment cool. Donc peut-être la Corée. Voilà.
Eh ben c'est génial, on te souhaite alors de pouvoir être publié dans tous les pays du monde pour que tu puisses voyager aux frais de la princesse.
Exactement.
<chaque fois. rire>
Voilà, c'est quand même cool l'Irlande, mais...
Merci à tous alors, et puis on se dit une prochaine peut-être pour parler d'un autre sujet sur Voyagecast. Salut à tous.
Salut.
Salut.
Ciao ciao.
Je veux voir le capitaine.
Tu l'as devant toi.
Je veux aller au nord, jusqu'au mur.
Non, tu n'iras pas.
Je peux payer.
Il n'y a rien dans le nord, sinon de la glace, la guerre et des pirates.
Je n'ai pas besoin d'une cabine. S'il vous plaît. Je pourrais travailler à bord, nettoyer
je
le pont.
Je ne vais pas au nord, petit. Je rentre chez moi.
Et où est-ce?
La cité libre de Braavos.
Attendez, j'ai quelque chose d'autre.
Ton argent n'y changera rien.
Ce n'est pas de l'argent. C'est du fer.
C'est... Comment l'as-tu?
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris. Bien sûr, vous aurez une cabine.
Et encore merci aux trois amis d'avoir participé à Voyagecast. C'était vraiment très agréable d'enregistrer avec eux un dimanche matin. C'est vraiment se lever et avoir l'énergie pour toute la journée ensuite. C'était absolument génial. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tous les liens dont on a parlé, notamment leurs podcasts respectifs, sur voyagecast.ch, sur le billet qui accompagne Voyagecast. Pour ce qui est du début et de la fin de Voyagecast, vous les avez reconnus forcément. Le premier, c'était l'extrait du prochain Star Wars, le Star Wars 7. Et vous savez pourquoi? Parce que IMDb, donc là où je vais chercher un petit peu mes données sur les films, me dit qu'il va y avoir des scènes qui ont été tournées en Irlande dans ce prochain Star Wars qui va sortir, je crois, à la fin de l'année, si je me rappelle bien. Bon, j'étais obligé de le passer, du coup, ça valait le coup. Vous savez, je suis un fan de Star Wars, vraiment, j'adore ça. Et même si j'ai un petit peu peur d'aller le regarder, je sais que je vais aller le regarder. Et... ouais, la bande d'annonce, j'avoue, m'a donné des frissons. Pour ce qui a suivi, à la fin du podcast, c'était la toute fin de la dernière saison de Game of Thrones. Donc c'était Arya que vous avez pu entendre. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça, il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées en Irlande. Pas forcément cette scène-là, parce que c'est un peu compliqué à chercher, mais En tout cas, il y a pas mal de scènes qui ont été tournées en Irlande, et aussi parce que Game of Thrones revient, sauf erreur, au début de cette année, je sais pas, ça doit être avril, mai, ou quelque chose comme ça, que la saison 5 de Game of Thrones va commencer. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de spoil, à part que vous savez qu'à la fin de la saison 4, Arya est toujours vivante, mais bon, si vous n'avez pas regardé toute la saison, c'est que vous n'êtes pas des vrais fans. Pour le prochain Voyage Cast, si vous n'aimez pas ma voix ni ma façon de parler, il faudra le zapper parce que ça va être beaucoup moi tout de même. Je vais vous parler du sud des États-Unis, ce que les Américains appellent le Real South, où j'ai passé donc, je sais pas, je pense entre une et deux semaines en voyage, justement. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant d'en parler, parce qu'on en parle très rarement du sud des États-Unis. Et quand on en parle, on en a, principalement les Français, il me semble, ont un avis vraiment détestable sur le sud des États-Unis. C'est les armes, c'est le racisme, c'est l'esclavage. Qu'est-ce qu'il en est en vrai? Et puis je vais parler justement de ces sujets-là, un petit peu d'un point de vue historique, et beaucoup d'un point de vue actuel aussi, parce que je trouve qu'on a étrangement beaucoup de compréhension quand on a les Papous en Nouvelle-Guinée ou les Hadzabé en Afrique. Alors on comprend leur culture, on est d'accord avec eux, c'est génial et tout ça. Et quand vous avez un Américain qui vous explique sa culture, ben il y a aucun respect pour ce qu'il pense, il y a aucun respect pour les bases, les fondements sur lesquels ils sont. Et je trouve ça très dommage, parce qu'en tant que voyageur, on se doit de pas juger les cultures, qu'elle soit africaine, qu'elle soit asiatique ou qu'elle soit américaine. Et je trouve que c'est... Oui, je sais pas. C'est un truc qui est pour moi vraiment incompréhensible. Donc je vais essayer de prendre des angles différents, notamment sur ces trois sujets, donc les armes, l'esclavage et le racisme, pour vous expliquer comment est-ce que je l'ai ressenti là-bas. Et aussi, pas dire forcément qu'on se trompe sur notre avis sur les armes, mais en tout cas qu'il y a toujours des angles différents sur lesquels voir des situations, et que nous, notre job, entre guillemets, en tant que voyageurs, c'est, quand on voyage, justement, de voir ces autres aspects, de discuter avec les gens sur ces autres aspects, de confronter notre idée basiquement française ou européenne avec ces idées américaines, et d'arrêter un petit peu, justement, de juger ces choses-là. C'est quelque chose que j'aime pas du tout, et justement, parler un petit peu de ces sujets-là. Je vais essayer d'expliquer les choses comme il faut et puis de pas trop intellectualiser le truc, mais de quand même remonter un petit peu à la source de certaines choses. Bref, j'espère que ce sera intéressant. Et puis pour les prochains, il y a peut-être un autre où je vais le faire, mais je sais pas si ça va marcher ou pas. Et puis il y a beaucoup d'autres sujets qui seront traités. On commence gentiment à recommencer les enregistrements sur VoyageCast, et ce n'est pas pour me déplaire. Je vous rappelle aussi que si vous avez envie de participer à VoyageCast, que vous avez un voyage à raconter ou des histoires à raconter, ou je sais pas, quelque chose vraiment en rapport avec le voyage, vous êtes vraiment les bienvenus. Il y a pas besoin d'être une star ou d'être je sais pas quoi pour venir sur VoyageCast. La porte est grande ouverte à tous les voyageurs. On se dit donc à dans deux semaines avec le Real South. Allez, à ciao, bonsoir.